avait évolué ces trois dernières années dans les 60s, à mitonner des rôtis avec une mise en plis pour un facochère alcoolique brutal et à moitié mutique. Le rôle de petite femme d'intérieur, Claire connaissait. Par contre, la couture était encore terre inconnue, dernier bastion de résistance au cliché de la boniche au foyer. Mais voilà un mois, elle s'y était mise avec la Bernina qui traînait à la cave. Pendant que Michel se lamentait sur la fermeture des cafés, pendant qu'il s'enfilait tout ce qu'Internet faisait de vidéos complotistes sur les bons tuyaux du professeur Raoult, Claire apprenait. Comment enfiler une canette? Comment arrêter un point? Faire un ourlet? Poser un élastique, maintenir des plis avec des épingles. Elle avait fait un masque pour elle, un autre pour sa mère. Elle pensait d'abord s'arrêter là et puis elle s'était rendue compte que la vibration de la machine lui manquait les jours où elle ne la touchait pas. Elle avait apprivoisé la Bernina, compris ses caprices, imposé les siens, et elle s'était jetée à corps perdu dans cette activité répétitive, à la fois ingrate et méditative, pendant laquelle elle avait le loisir de réfléchir à sa vie. Claire déposait chaque semaine une trentaine de masques à la maison médicale près de chez elle. C'était sa contribution à l'effort de guerre. Tout y passait, ses vieux chemisiers, ses draps, de lit maintenant, les t-shirts de son père. L'autre jour, en allant faire ses courses, elle avait croisé dans la rue un jeune homme inconnu qui portait un de ses « The Beast » sur le visage. C'était beau comme une ovation. Pour le peu qu'elle connaissait de lui à présent, Derek aurait apprécié. C'était aussi la contribution de Claire à l'effort de mémoire. Son père luttait toujours aujourd'hui, mais sur un autre front. Le front du peuple, que l'on allait obliger à sortir masqué sans pour autant avoir la certitude que le matériel lui serait fourni. Le front des femmes, surtout. Car c'était elles qui s'esquintaient le dos, les yeux et les doigts sur des morceaux de tissu. Claire savait maintenant que l'humanité se divisait entre deux types de personnes. Celles qui se disaient qu'hélas, elles ne savaient pas coudre, et celles qui se disaient qu'elles allaient s'y mettre. Claire refusait désormais de subir, d'attendre, de voir la vie s'écouler comme de la cendre entre ses doigts. Claire était vivante, Claire était courageuse, Claire était capable, sans doute encore un peu plus qu'avant. Mardi 28 avril, 10h. Il s'était remis à pleuvoir après un mois et demi de beau temps. Pas de doute, ça sentait l'approche du déconfinement, bientôt l'heure d'affronter le monde d'après et ses nouveaux règlements. Claire jeta un œil dehors, elle enfila des gants de vaisselle, descendit l'escalier, traversa la rue et tendit devant elle un rectangle de tissu jaune et noir. Le policier ne vit que ses yeux, mais il sut qu'elle souriait. Il écrasa sa cigarette pour lui dire merci, il trouvait ça plus poli. Un bruit attira leur attention vers la fenêtre du deuxième. Des applaudissements. C'était Antoine. De Beast, écrit en jersey sur la bouche. Et trois autres fenêtres s'ouvrirent sur une dizaine de bêtes aux yeux souriants qui battaient des mains pour elles, pour Derek, pour eux-mêmes. Parce qu'ils étaient courageux, parce qu'ils étaient vivants, parce qu'ils étaient toujours capables d'émerveillement. Sans doute, encore un peu plus qu'avant.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 43e jour. Mardi 28 avril, fin de journée. Léa est dans la salle de bain, elle essaye le masque en coton que Claire lui a offert. Elle s'admire dans le miroir, tournant la tête à gauche, tournant la tête à droite. Elle se dit que, dans le fond, ce n'est pas si moche. Elle se dit aussi, en portant un masque, tout passe par les yeux et donc les gens seront obligés de moins mentir. On aura au moins gagné ça. Plus de vérité. Le visage toujours masqué, Léa sort de la salle de bain et la voix un peu étouffée demande à Antoine s'il trouve ça sexy. Antoine relève la tête de l'ordinateur et répond « Oui, sur une jolie infirmière nue sous sa blouse blanche, mais là, sur une caissière de supermarché en t-shirt Garfield qui n'a pas encore pris sa douche, je dirais que non. » Léa passe et repasse derrière lui, en lui caressant la nuque avec le masque dont l'élastique pend au bout de son doigt, un peu comme Rita Hayworth avec son long gant lorsqu'elle chante « Put the blame on Mame Boys » dans Gilda. Léa, c'est ça Rita Hayworth, mais en t-shirt Garfield. Antoine, toujours rivé à l'écran, reste froid comme de la pierre tombale et murmure « Je suis content de ne pas avoir d'enfant. » Puis d'une voix plus assurée, « Ça me plairait pas, moi, ce truc d'envoyer les enfants à l'école maintenant. Je sais qu'ils disent que les mômes ne l'attrapent pas, mais quand même, pour moi, ce serait pas question. Les miens, ils bougeraient pas de la maison. Je leur ferais l'école moi-même. Je suis bon en mécanique et puis je suis bon en fraction. Avec ça, tu vas loin, tu sais. Tu peux au moins commencer une vie. » Léa est touchée de ce qu'il vient de dire et lui demande « Ça te plairait, toi, d'avoir des enfants ?»« Moi ? » ?»« Non, je crois pas. » »« Tu ne crois pas ?»« Bah non, je sais pas, j'y ai jamais réfléchi. Pourquoi tu me demandes ça ?»« Mais parce que je crois qu'il faudrait que j'aille à la pharmacie. » »« Tu plaisantes, là ?»« Très franchement, je n'en sais rien. » Mercredi 29 avril, 3h du matin, Antoine n'arrive plus à dormir, il a été réveillé par un rêve dans lequel il demandait son chemin à des dizaines de personnes sans qu'elles puissent l'aider à retrouver sa maison. Assis, nu, au bord du lit, il tourne la tête et regarde Léa dormir. Il n'arrête pas de penser à ce qu'elle lui a dit. Il ne manquerait plus que ça, qu'il devienne père en confinement, enfin après le confinement, en espérant que la quarantaine n'ait jamais aussi mal porté son nom et ne dure pas 9 mois. Dans le noir de la chambre, il sourit en se disant qu'il ne sera sans doute pas le seul mec à sortir du lockdown avec un bébé sur les bras. C'est certain, les gens ont fait l'amour parce que ça apaise, parce que ça déstresse, parce que la plupart du temps, c'est gratuit. Il sait aussi qu'au début, dans la panique des premiers jours, tout le monde n'a pas toujours pris ses précautions. Il se dit « Mais toutes les filles qui traînent sur le Tinder prennent la pilule, non ?» Dans le noir de la chambre, Antoine sourit. Il ne sait pas pourquoi. Il regarde son sexe et susurre « On va peut-être être papa. » Ce à quoi son membre tendu lui répond « Allons nous coucher d'abord, on verra ça demain. »
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 44e jour, parce que c'est comme ça. Il y a la mort et il y a la vie. Julien, l'infirmier, commence à ne plus très bien savoir de quel côté de la frontière il se trouve. Dans le miroir de la salle de bain, il ne reconnaît pas son visage plusieurs heures après avoir enlevé son masque réglementaire, ses lunettes de protection et le calot qui lui en serre le crâne. Leurs traces sont encore visibles, qui lui déforment la crête du nez, le front et les joues. On dirait qu'il a pris des coups, ce qui est le cas. Des coups, il s'en prend plusieurs fois par jour. Comme ce matin, quand il a vu la peur dans le regard de cette petite dame que son collègue et lui ont sorti de son immeuble emballé sur une civière, et puis cette autre peur dans le regard de son mari qui ne pouvait pas l'accompagner. « Ce sont les consignes, monsieur, on vous donne des nouvelles, ne vous inquiétez pas. Rentrez maintenant. » Une frayeur d'enfant, dans des regards de vieux. C'est insupportable. Une peur qui dit « Non, pas maintenant, pas comme ça, nous ne sommes pas prêts. » Laissez-nous encore un peu de temps. Lui, à chaque fois, ça lui file un coup dans le bide. Pourtant, il doit penser à autre chose. Une nouvelle consigne du Risk Management Group, mise à jour le 30 mars dernier, organise une procédure de plus en plus pointue et complexe. Interdit de se tromper dans la succession et dans la précision des gestes. Proscrit de ne pas respecter les distances de sécurité. Tout est à usage unique. Les masques, les gants, les vêtements de protection qui, une fois utilisés, se retrouvent dans la filière des déchets contaminés qui finiront dans le feu. À usage unique. Un peu comme nous. Une image lui traverse l'esprit. Celle de Dustin Hoffman dans ce film dont il avait loué le DVD il y a quelques années, Alerte, l'histoire d'un virus mortel venu d'Afrique qui envahissait les États-Unis. Un film catastrophe à regarder le samedi soir en mangeant des chips. Il se souvient que tous les acteurs étaient emmitouflés dans des combinaisons jaunes de cosmonautes ridicules, un peu comme celles qu'ils portent tous les jours depuis plus d'un mois. C'est comme ça. Il y a la mort. Et puis il y a la vie. Julien ne compte plus le nombre de déplacements que l'ambulance effectue chaque jour. Ce qui est terrible, c'est la routine. C'est qu'il ne peut pas, quand la personne qu'il transporte est toujours consciente, lui prendre la main, lui dire les mots qui rassurent. Pas le temps, et surtout pas le droit, il faut respecter les distances. C'est le soir, Julien a beau s'être ébouillanté sous la douche, les traces de sa journée sont toujours bien visibles sur sa peau, comme des cicatrices. Heureusement, demain il sera off. Il faut au moins ça, un jour de congé par semaine, pour ne pas devenir complètement dingue. Cette nuit, seul dans son lit, Julien tombera dans le sommeil comme on tombe du toit d'un immeuble de 10 étages. Jeudi 30 avril. Julien a mis son masque pour aller au petit de l'Est de son quartier. Il faut absolument qu'il remplisse son frigo. Dans les allées, il y a des clients qui ont l'air de ne pas encore avoir compris. Il voudrait leur dire la détresse des corps qui l'accompagnent tous les jours pour un voyage dont le retour est incertain. Il voudrait leur dire la maladie, les larmes, l'absence, leur dire que l'on meurt toujours seul, qu'il ne faut pas jouer avec sa chance quand on en a. Mais il continue à faire ses courses, le plus rapidement possible, comme le lui rappelle régulièrement la voix dans les haut-parleurs du magasin. À la caisse numéro 8, il a reconnu la jeune femme qui s'était un peu énervée l'autre jour parce que son copain l'avait fait monter chez eux pour boire une bière. « Vous avez la carte du magasin ?» lui demande-t-elle. Julien baisse discrètement son masque. « Bonjour, vous allez bien ?» Elle lui adresse un sourire un peu gêné. « Oui, je vous remercie. Dites pour l'autre jour. Laissez tomber, c'est pas grave. J'aurais sans doute réagi de la même manière. Si ça vous dit, quand tout cela sera calmé, passez à l'appartement, prendre un verre. » Ça m'étonnerait que ça se calme de sitôt, mais j'y penserai. C'est gentil. Julien s'attarde sur le visage de la jeune femme. Il y a dans le sourire qu'elle lui renvoie quelque chose qu'il reconnaît. Une lumière. Un espoir. La vie.
La première, 11h30, 13h. Entrez sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 45e jour. On reste, Dieu merci, à la merci d'un conifère, d'un silence inédit d'une seule partie de jambes en l'air. Vendredi 1er mai, 8h du matin. Léa a ouvert les yeux tôt, nerveuse. Elle n'a pas voulu réveiller Antoine, alors elle a fixé le plafond pendant une bonne heure avant de se lever. Elle voulait faire le test avec son urine du matin. Ce n'est plus obligatoire aujourd'hui. Les tests sont suffisamment sensibles pour détecter une grossesse à n'importe quel moment de la journée, mais Léa préfère le matin, pour être sûre. Elle s'est levée, a pris un verre dans le placard de la cuisine et s'est enfermée dans la salle de bain. Elle se demande combien de fois elle a fait ce test dans sa vie. La première fois, elle s'en rappelle, elle avait 19 ans. Un drôle de cocktail d'angoisse, d'espoir et de sentiment d'imposture. Comme si elle s'apprêtait à entrer dans la cour des grandes, la cour des mamans, sans y avoir été invitée, comme un défi lancé à sa mère. Le test était négatif. Soulagement et déception, et une petite pointe de blessure à l'ego. Des tests, il y en avait eu d'autres, tous négatifs, mais à chaque fois ce mélange d'appréhension et d'envie, comme aujourd'hui. Au fond, Léa n'a pas envie d'avoir un enfant, ou pour être exact, elle n'en a plus envie. Quand elle avait 20 ans, elle s'était vue mère parce que la question ne se posait pas. Depuis sa plus tendre enfance, on lui avait toujours dit « Tu verras, quand tu auras des enfants, on ne lui avait jamais dit « Tu verras si un jour tu as des enfants. » Puis elle a eu 25 ans. Son truc à elle, c'était voyager, faire la fête, enchaîner les boulots de serveuse et de barmaid. Elle avait commencé à penser qu'il serait temps de trouver le bon mec avec qui s'installer et construire quelque chose. C'est ce que ses amies avaient fait, les unes après les autres. Et c'est à ce moment-là que Léa avait réalisé que ce n'était peut-être pas son truc, qu'il y avait là beaucoup de combats qu'elle n'avait pas envie de mener. Que la vie offrait tout un tas d'autres choses, moins définitives que celui de la parentalité. Elle n'avait pris aucune décision, mais elle avait réalisé qu'elle n'aurait pas de regrets, qu'elle pouvait laisser l'horloge biologique tourner et occuper sa vie comme elle l'entendait. Donc, ce matin, elle n'a pas envie que ce test soit positif. Elle revient de la salle de bain, le verre à moitié rempli d'urine, et le pose sur la table à côté du café d'Antoine et de la petite boîte rose. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ?» lui lance Antoine. « Lis le mode d'emploi, c'est pas très compliqué. »« Quoi, tu veux que je le fasse moi-même ? » ?»« Écoute, on a foiré tous les deux au niveau de la contraception, donc tout ce qui se passera à partir de maintenant sera rigoureusement réparti entre nous. J'ai pissé dans le verre, j'ai fait ma part. » Ok, ok. Léa part prendre sa douche. Antoine déballe le test, lit le mode d'emploi avec beaucoup d'attention. Ça l'amuse un peu de tremper l'embout cotonneux dans l'échantillon d'urine. Il a l'impression d'être le perrin dans une des séries sur la police scientifique. Il pose le test bien à plat sur la table. Un premier petit bâtonnet rose apparaît. Si le deuxième arrive, c'est positif. Antoine se surprend à espérer ce deuxième bâtonnet, comme il a rarement espérer dans sa vie. Pourtant, ce n'est pas le moment. C'est même le plus mauvais moment qu'on puisse imaginer pour mettre un enfant au monde. Mais quelque chose a balayé toute pensée rationnelle chez Antoine. Trop d'amour pour Léa et pour ce petit quelque chose qui est peut-être en train de pousser dans son ventre. Ça lui serre la gorge. Et les larmes montent quand apparaît le deuxième bâtonnet rose.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 48e jour. Vendredi 1er mai. C'est une tempête, ce moment-là, cet instant où, alors qu'on n'a rien planifié, deux bâtonnets roses annoncent le bouleversement. Antoine sent les larmes couler, il ne sait pas si elles sont de joie, d'angoisse ou de sidération. Il est seul dans la cuisine, les yeux rivés sur le test. Deux lignes. Il relit nerveusement le mode d'emploi. Deux lignes, oui, c'est ça. Positif. Qu'est-ce qu'il est censé faire, là, maintenant? Se précipiter dans la salle de bain et se jeter dans les bras de Léa? Appeler son meilleur ami, se faire un café, continuer de pleurer sans savoir pourquoi? Il n'a pas à choisir. Il entend le grincement de la porte de la salle de bain. Il entend les pas de Léa dans le couloir. Il la sent approcher. Comment lui dire? Vite, une idée. Un solennel, tu vas être maman? Ou on va avoir un bébé? J'ai une bonne nouvelle. Non. Il suppose qu'elle redoutait. Les deux lignes roses. J'ai une mauvaise nouvelle alors, non plus. Il ne parviendra pas à dire qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle. J'ai une nouvelle qui n'est ni bonne ni mauvaise, non. Ou assieds-toi, il faut qu'on parle. Ou salut maman. Elle est là, dans la cuisine, en peignoir blanc, les cheveux encore trempés. Elle ne pose pas la question. Il ne dit rien non plus. Elle s'assoit calmement face à lui, qui serre le test entre ses mains, et elle ne dit rien. Elle n'en a pas besoin. Les larmes, qu'elles soient de joie, d'angoisse ou de sidération, souvent, c'est plus clair que les mots. Oui, c'est plus clair que les mots, les larmes. Lundi 4 mai, 10h30. Léa et Antoine traînent au lit. Après 8 semaines, on a moins d'idées pour remplir les journées, moins d'entrain, moins envie de débattre sur le monde d'après aussi, parce qu'il pointe le bout de son nez et il ressemble déjà trop au monde d'avant. Antoine n'attend plus les chiffres quotidiens comme il le faisait au début de l'épidémie. On s'habitue à tout. Ce week-end, il a surfé sur le net, il a vu des images des écoles chinoises, la réouverture d'IKEA en Allemagne, la carte des couleurs françaises, oui, il a vu tout ça. Mais une seule chose désormais occupe son esprit, la toute petite chose qui est en train de pousser sous le nombril de Léa. Ils en ont parlé tout le week-end, il y a eu des « tu veux le garder ?» et des réponses vagues. Il y a eu des « c'est trop tôt, non ? On ne se connaît que depuis 8 semaines. » Il y a eu des « alors ça veut dire qu'après tout ça, on se sépare pas, on prend un appartement, on achète un frigo, des casseroles, un lave-vaisselle, un fer à repasser, une télévision. Il y a eu des « tu voudrais habiter dans quel quartier, toi ?» des « qu'est-ce que tu aimes comme prénom ?» des « c'est pas sérieux ?» Il y a eu des doutes, il y a eu des larmes, de la peur, des baisers, il y a eu de l'amour. Il y a eu tout ça. Étendue dans le lit ce matin du 4 mai, Léa se demande à quoi ça sert de faire un enfant. Et plus encore aujourd'hui, alors que demain n'est plus une certitude. Et qu'il y a déjà assez de monde sur cette terre, non? À quoi ça sert de faire un enfant? Sinon à faire comme tout le monde. Antoine, lui, il se demande, c'est quoi être père? Enfin, être un bon père. C'est aimer ses enfants, probablement. Mais les aimer ne les empêche pas de souffrir à leur tour. Alors, ça ne suffit pas de les aimer, il faut pouvoir les protéger, pour qu'ils ne tombent pas. Mais s'ils ne tombent pas, ils devront tout de même affronter ce monde de merde, et ils auront de la peine parfois et des chagrins abominables. Et dans ces moments-là, il aura beau les aimer, ça n'y changera rien. Plus de 7000 personnes ont perdu la vie en Belgique à cause de ce satané virus. La suite ne sera probablement pas plus tendre. Et pourtant, contre le vent, contre la marée, contre l'époque, contre la raison, contre la prudence, contre toute attente, un bébé arrive.
La première, 11h30, 13h, entrée sans frapper.
L'injuste destin du pangolin, le 49e jour. Léa colle un protège-slip à l'intérieur du masque que lui a confectionné Claire et sort affronter le vaste monde. Prudence, double dose, aujourd'hui. parce qu'elle s'apprête à faire son entrée dans ce qui s'apparente à une partouze de germes et virus, la maison médicale de son quartier. Un lieu où, d'ordinaire, hors pandémie, des pauvres gens crachent déjà leurs poumons sur d'autres pauvres gens dans la salle d'attente. Les consultations non urgentes des généralistes reprennent ce matin, après 7 semaines de débrouille, de diagnostic Skype ou d'abandon de traitement pour les malades non-Covid, comme on les appelle. Léa n'est pas malade, mais sa consultation est urgente. C'est le premier jour de ce qu'on s'accorde à appeler déconfinement, alors que ce n'est qu'un léger assouplissement et que les gens qui ne cousent pas et ne possèdent pas de kayak ne verront pas la différence. Dans la rue, à part la bruine qui vient rappeler que la Belgique est décidément un pays farceur, rien n'a changé. Peu de voitures, les vitrines des bars et restaurants en berne, des queues insensées devant le supermarché et la pharmacie. Léa respire difficilement et ce n'est pas seulement la faute du masque dans lequel sa bouche et son nez sont serrés. Elle se dit que, peut-être, ce sera ça, le visage du monde dans lequel grandira son enfant, si elle décide de le garder. Un visage sans bouche et sans nez, sans odeur et sans étreinte. Un monde dont le silence opaque est quelquefois, rarement, déchiré par la sirène d'une ambulance, la cloche d'une église ou des applaudissements aux fenêtres. Elle pense à cet amas de cellules qui commence à s'arrimer à son utérus et tente d'imaginer quel drôle de cadeau ce serait une enfance sans voir la mère, sans se bagarrer dans la cour. Une vie de discipline et d'élan comprimé. Léa se surprend à avoir les yeux mouillés, mais ce sont peut-être juste les hormones à la manœuvre. La porte de la maison médicale est ouverte, calée avec une vieille savate pour qu'on n'ait pas à la toucher.